Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, nous ne changerons pas nos valeurs de diversité. Message de la première ministre en Nouvelle-Zélande après le double attentat de Christchurch. Deux mosquées attaquées, 49 morts. Bilan provisoire, un homme d'extrême droite australien, suspect numéro 1, suprémaciste blanc manifestement, attaque planifiée. Raphaël Glucksmann sera-t-il leader de la gauche modérée aux européennes? C'était sur France Inter. Ce matin, le philosophe se lance dans la campagne avec l'espoir d'entraîner le PS. Pas de tête de liste socialiste serait une première. Dans la majorité, Nathalie Loiseau est prête à mener la liste. Le fera-t-elle vraiment? Pas sûr. Combien de lycées à travers le monde, de lycéens à travers le monde pour le climat aujourd'hui? Nouvelle journée de grève de l'école pour défendre la planète. Nous irons à Melbourne et Paris. Combien de personnes dans la rue? Question du jour aussi en Algérie. Encore un vendredi de manifestation contre le pouvoir. Dans cette édition encore, le ministre de l'Intérieur dans la tourmente, épinglé par la presse People. Cela pose des questions publiques. Barcelone-Manchester United, match vedette des quarts de finale de la Ligue des Champions. Le tirage au sort vient d'avoir lieu. Le grand débat lors des synthèses. Nous irons là où nous étions au début, Saint-Briac, Côte d'Armor. La météo. Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Quelle est la tendance Sébastien?
Eh bien l'après-midi se passera le plus souvent sous les nuages avec même quelques gouttes par endroit et des pluies encore fréquentes entre le Grand Est, la Franche-Comté et le Dauphiné. On attend aussi un peu de neige avec du vent fort sur les Alpes du Nord. La Savoie et la Haute-Savoie restent d'ailleurs placées en vigilance orange aux avalanches. C'est le soleil qui règne sur les Pyrénées et le pourtour méditerranéen. Et côté température, prévoyez 12 à 16 degrés sous les nuages mais 16 à 23 degrés sous le soleil.
Et un petit tour dans une station de ski, j'ai testé la navette autonome à Val Thorens. Philippe Lefebvre. Tout à l'heure, le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
C'est un pays qui ne surgit quasiment jamais dans l'actualité de manière tragique. La Nouvelle-Zélande, confrontée à une attaque terroriste, c'était au milieu de la nuit en France, le début de l'après-midi à l'autre bout du monde. Christchurch, deuxième ville de l'archipel, deux mosquées attaquées, dont la principale de la ville, en pleine prière. Ce fidèle raconte à nos confrères britanniques du Guardian.
Il y avait un banc. Je me suis glissé dessous, la moitié de mon corps dépassé, j'ai retenu ma respiration. Et l'homme a rechargé son arme à 7 reprises. Il tirait. La mosquée est divisée en différentes sections. Il est allé dans chaque salle et a tiré sur tout le monde.
49 morts, bilan provisoire, 3 personnes arrêtées, un homme déjà inculpé pour meurtre. Il s'est filmé, il a diffusé ses horreurs sur les réseaux sociaux. Le compte a été fermé depuis. Il est à présent 1h du matin en Nouvelle-Zélande. Bonjour Omar Waman.
Bonjour Bruno.
Vous nous avez rejoint pour le récit de ce qui s'est passé en début d'après-midi à Christchurch.
Oui, vendredi après-midi, jour de prière à la mosquée pour les musulmans de Christchurch. C'est ce moment qu'a choisi le tireur muni d'un fusil automatique pour faire feu au hasard sur les fidèles. L'homme, vêtu d'une tenue de camouflage, portait, selon des témoins, un gilet pare-balles et un casque. L'assaillant a diffusé la tuerie en direct sur Internet à l'aide d'une caméra. Des images insoutenables partagées sur les réseaux sociaux. Deux mosquées ont été prises pour cible. Une première dans le centre-ville où 41 personnes ont perdu la vie et une seconde en périphérie de Christchurch où 8 fidèles ont trouvé la mort. 49 victimes au total, dont des femmes et des enfants. Peu après, on a interpellé la police a interpellé 3 personnes, 3 femmes, 3 hommes, pardon, et on parle aussi d'une femme. Un homme aurait été inculpé pour meurtre, selon Mike Bush. Mike Bush, c'est le chef de la police locale.
Une personne, un homme d'une vingtaine d'années, a été inculpé d'assassinat et devrait être présenté à un juge du tribunal de Christchurch demain matin. 3 autres personnes ont été interpellées. Nous avons récupéré d'autres armes à feu sur les lieux des 2 attaques, avenue Linwood et avenue Dames. Il n'y a pas eu d'autres menaces depuis que nous sommes intervenus sur cette attaque.
Merci Omar Waman pour ce récit. Alors cet homme dont parle à l'instant le policier, c'est le suspect numéro 1, homme de nationalité australienne. Il semble bien avoir planifié le double attentat. Il a laissé sur les réseaux sociaux un document de plus de 70 pages. Il se présente comme un homme blanc de 28 ans, extrême droite. Bonjour Lise Baudet.
Bonjour Bruno.
D'autres éléments de portrait de ce suspect?
Alors l'homme n'est pas encore identifié officiellement, mais le premier ministre australien a confirmé ce matin qu'il s'agissait bien d'un de ses compatriotes. Cet homme qu'il décrit comme un violente terroriste extrémiste de droite, serait, vous le disiez, l'auteur d'un manifeste publié peu de temps avant l'attaque sur un compte Twitter qui porte le même nom et la même image profil que la page Facebook qui a diffusé l'attaque en direct. On en parlait. Le titre de ce document est éloquent. Le grand remplacement, référence à une thèse de l'écrivain français Renaud Camus sur la disparition des peuples européens remplacés, selon lui, par des populations non européennes immigrées. Une thèse très populaire dans les milieux d'extrême droite. Le texte désigne donc clairement la cible de l'attaque, les musulmans. Son auteur explique qu'il est né en Australie dans une famille aux revenus modestes. Et pour justifier son geste, il évoque entre autres une invasion de la France par les non-blancs qu'il aurait lui-même constaté lors d'un voyage. Moment clé de sa radicalisation, dit-il, la défaite de Marine Le Pen à la présidentielle de 2017 et une attaque au camion qui a fait 5 morts à Stockholm en avril de la même année.
Et des réactions dans le monde entier. La reine Elisabeth, profondément attristée par cette attaque effroyable. Le pape, très attristé lui aussi, ce sont les mêmes mots. Donald Trump dénonce l'horrible massacre dans ses mosquées en Nouvelle-Zélande. Réaction encore du président turc Recep Tayyip Erdogan. Et puis, bien sûr, un visage est apparu à la télévision. C'est celui de la première ministre de Nouvelle-Zélande, jeune première ministre, Jacinda Ardern. Nous ne renierons pas ce que nous sommes, dit-elle.
Nos valeurs, je vous l'assure, ne seront pas et ne doivent pas être menacées par cette attaque. Nous sommes une nation fière, de plus de 200 ethnies, 160 dialectes, et c'est dans cette diversité qu'on partage ces valeurs communes. Et la valeur dans laquelle on place notre confiance maintenant, c'est notre compassion et notre soutien à la communauté directement affectée par cette tragédie. Nous condamnons de façon la plus ferme l'idéologie des gens qui ont fait ça. Vous nous avez peut-être choisis, mais nous vous rejetons totalement. Of the ideology
of the people who did this. Les commentaires en France, Emmanuel Macron dénonce des crimes odieux. La France se dresse contre toute forme d'extrémisme. Marine Le Pen, les attentats terroristes sont les pires actes de lâcheté imaginable. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, demande par précaution au préfet de renforcer la surveillance des lieux de culte. C'était ce matin sur France Inter, moment important de la campagne des européennes à gauche, élection le 26 mai, je vous le rappelle. Invité de la matinée, de la matinale, le philosophe Raphaël Glucksmann. Il avait fondé à l'automne, avec d'autres personnalités, société civile, le mouvement Place Publique pour essayer de renouveler le débat à gauche. Eh bien, il se lance bel et bien dans la bataille des européennes aux côtés de Génération, le mouvement de Benoît Hamon, aux côtés des écologistes, et on verra comment tout ça se recompose. Raphaël Glucksmann, ce matin.
Aujourd'hui, on va lancer une campagne. Et cette campagne, elle vise à faire quoi ? À ébranler la scène politique. On ne peut pas se résoudre à ce spectacle figé. On va entrer en campagne et on appelle les partis déjà qui ont travaillé avec nous sur l'élaboration de combats communs pendant tous ces mois. Et ensuite, eh bien, je suis convaincu que parce qu'il y a une dynamique qui s'est créée, cette liste qui sera ouverte accueillera des gens de Génération, des gens de l'écologie des Verts, et finalement, qui aura ce rassemblement ?
Et bonjour Yael Goz.
Bonjour Bruno.
Chef du service politique de France Inter. Alors dans le paysage à gauche, dans le cadre de cette campagne, on avait repéré Benoît Hamon, Manon Aubry pour les Insoumis, Yannick Jadot chez les Écolos, Yann Brossat pour les Communistes, plus les Socialistes, ça fait déjà pas mal. Yael, quelle place pour Raphaël Glucksmann ?
Vous avez raison de poser la question Bruno, parce que là on n'est plus du tout dans la posture du philosophe en surplomb d'une gauche qu'il faudrait raisonner. Non, on est bien dans une stratégie politique, ultime tentative pour faire bouger les choses de l'intérieur, au risque, et c'est le paradoxe Glucksmann, auteur des Enfants du vide, cet essai qui accompagnait à l'automne le lancement de Place Publique, au risque d'alimenter ce trop-plein délirant de liste à gauche pour les européennes. Son mécano est le suivant, il le disait, il lance sa liste, la campagne sera co-animée avec l'écologiste Claire Nouvian, et dès demain, elle serait rejointe par les socialistes, puis par d'autres partenaires comme le PRG, Nouvelle Donne, Cap 21, et ce serait l'effet boule de neige. Yannick Jadot et Benoît Hamon ne bougeraient pas, pas grave. Glucksmann est convaincu que c'est leur base qui finira par craquer et par rejoindre la maison commune, une maison faite de sociétés civiles et de vieux partis, et de novices en politique comme lui, philosophe en campagne, impatient de ferrailler avec un autre penseur de droite, François-Xavier Bellamy.
Et il n'y aurait donc pas de tête de liste socialiste, ce serait une première, on en parle avec vous dans un instant. D'une certaine manière, ce serait une pelletée de terre en plus sur le cercueil du PS, en tout cas l'analyse d'une partie des militants et des cadres. Écoutez, Rachid Temal, ancien dirigeant du Parti Socialiste, sénateur du Val-d'Oise.
Depuis 1979, le Parti Socialiste a toujours présenté effectivement une liste socialiste ouverte aux élections européennes. Moi, je suis parlementaire socialiste, j'ai eu à diriger le Parti Socialiste, et moi je procède du Parti Socialiste. Donc je considère qu'au Parti Socialiste, d'avoir sa stratégie, ses propositions, mais en aucun cas parce que un autre parti craignisse que nous devions nous ranger comme cela. Je ne comprends même pas les termes du débat. Est-ce que le partialiste, qui a plus de 100 ans d'histoire, qui est aujourd'hui présent dans tous les territoires, qui a 100 parlementaires, va continuer à porter des valeurs et ses propositions?
Alors Yael, demain, Conseil national du PS à la Maison de la Chimie à Paris, ça s'annonce tendu. Hein.
Ouais, l'heure de vérité pour le premier secrétaire, Olivier Faure, qui manœuvre depuis le début pour passer cet accord avec Place Publique. Sauf surprise, il aura une majorité. Anne Hidalgo, Martine Aubry ou Johanna Roland à Nantes soutiennent à fond sa démarche. Mais c'est une nouvelle rupture pour le PS. François Hollande et Bernard Cazeneuve n'ont déjà pas digéré l'inventaire, souvenez-vous. Cette fois, il s'agit de faire accepter la dilution du PS parmi d'autres force. On n'est plus au temps où l'on pouvait caporaliser la gauche. Il faut changer ou mourir, résume Olivier Faure en petit comité. Ses détracteurs, parmi lesquels beaucoup d'amis de François Hollande, lui reprochent de vouloir ripolliner la façade en détruisant les fondations. Place Publique, passer le périph' parisien, c'est rien, s'énerve un sénateur. Marre d'être socialiste et de devoir s'excuser. Alors, passé ce vote plein d'épines, Olivier Faure a déjà prévu la photo avec Raphaël Glucksmann demain, lors de la marche pour le climat à Paris, le climat censé fédérer les gauches.
Et pour agioter une pelletée de terre en plus, Ségolène Royal, le PS, tu l'aimes ou tu le quittes, elle a fait son choix.
Non, je ne suis plus adhérente.
Depuis combien de temps?
Je ne sais plus, deux ans.
Deux ans, vous ne payez plus de cotisations?
Parce que je ne veux plus.
Deux ans, c'était la présidentielle, hein, c'était la campagne de la présidentielle. Oui, vous avez arrêté à ce moment-là?
Plus, mais ce n'est pas une décision comme ça, formelle, de anti-PS, etc.
Vous pourriez reprendre votre carte
aller,
un jour
parce
ou pas?
Que quand on adhère à un parti, il faut participer à ce parti. Je ne me vois pas vraiment retourner dans des réunions de section, etc. Donc, voilà, moi, mon parti, c'est la planète.
L'ancienne candidate à la présidentielle avec le copain Marc Fauvel ce matin sur France Info. Autre son politique de cette fin de semaine, Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes. Elle débattait hier soir à la télévision avec Marine Le Pen. Madame Loiseau pressentie pour être tête de liste La République En Marche aux européennes. Au début du débat, elle assure que non, elle n'est pas candidate, mais à la fin.
Madame Le Pen, je voudrais vous dire bravo. Bravo parce que vous avez réussi à me faire changer d'avis. Je suis entrée sur ce plateau et je vous ai dit que je n'étais pas candidate pour conduire la liste de la majorité aux élections européennes. Je vous écoute depuis tout à l'heure parler d'une Europe qui ne me fait pas envie.
Vous avez décidé d'être candidate pour finir.
Je n'ai pas envie que l'Europe de demain ressemble à celle que vous allez dessiner avec des nationalistes ultralibéraux qui sont vos amis. Moi, j'ai envie d'une Europe du partage et pas d'une Europe de la division. Je ne me défilerai pas, Madame Le Pen.
Bonjour, Karine Becker.
Bonjour.
Alors, ça y est, c'est elle la tête de liste ?
Alors, ce n'est pas aussi simple que cela, Bruno. Ce qui est vrai, c'est qu'elle a marqué des points hier, Nathalie Loiseau. D'abord parce qu'elle a provoqué sa chance et que dans le camp macroniste, vous le savez, on aime bien les gens qui osent, on aime bien les gens qui se lancent. Et puis parce qu'avec cette déclaration en surprise, elle a réussi à voler la vedette à Marine Le Pen. La preuve ce midi, on parle de cette sortie médiatique et absolument pas de la prestation de la présidente du RN. Bref, c'est ce qui s'appelle un assez joli coup politique. Maintenant, sera-t-il suffisant pour décrocher la tête de liste? Pour l'instant, tout le monde attend le retour du président. Il est rentré cette nuit d'une tournée en Afrique et tout le monde le sait, au sein de la majorité, c'est lui de toute façon qui va trancher, qui doit valider a priori dans les 10 jours qui viennent. Donc pour l'instant, c'est le statu quo. Soit le chef de l'État à 73 jours du scrutin européen a un dernier plan B, mais dont personne n'a entendu parler, soit il adoube Nathalie Loiseau.
Plus globalement, Karine, les premiers noms de cette liste pour les européennes commencent à filtrer. Hein.
Oui, avec très peu de vrais candidats La République En Marche. Sur les 12 premiers noms, il est question de Stéphane Séjourné, le directeur de cette campagne pour la majorité, de l'économiste Jean Pisani-Ferry, de Pierre Lesquin, qu'on connaît peu mais qui est un proche de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Côté jupéiste, la sénatrice Fabienne Keller et le conseiller Gilles Boyer, qui serait donc plutôt bien placé. Et puis quelques personnalités, notamment Pascal Brice, l'ancien directeur de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Et nous avons entendu Raphaël Glucksmann se déclarer candidat. Puis l'échange Loiseau-Le Pen, arbitré par Léa Salamé. Léa Salamé, intervieweuse vedette de France 2 et France Inter. Eh bien, elle a décidé de se mettre en retrait des antennes le temps de la campagne des européennes. Elle qui, dans le privé, est la compagne de Raphaël Glucksmann. Retrait d'ici à la fin du mois et jusqu'à la date des élections pour la chère Léa. Ce vendredi 15 mars marque théoriquement la fin du grand débat. Les milliers de réunions à travers la France depuis le début de l'année, c'était ce grand débat. La phase qui s'ouvre désormais, c'est celle de la synthèse à travers des conférences régionales. À Poitiers, Rouen, Paris, Lille, Orléans, Marseille, Lyon, temps de la synthèse et des propositions. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Avec vous, France Inter a choisi de retourner dans la première ville où nous avions suivi le débat, Saint-Briac, Côte d'Armor. Premier bilan, vous avez rencontré des gens contents d'avoir pu s'exprimer.
Oui, pour chaque réunion, il y avait 150 à 200 personnes. Le maire Vincent Denby Wilkes a dû changer de salle et prévoir deux débats de plus.
C'était incroyable. Ça a quand même été une surprise que de voir cette participation extrêmement soutenue et passionnée. Donc on est dans une espèce de temps qui est un peu suspendu. Il y avait là un moment très privilégié.
Et la toute première revendication, eh bien, c'est de débattre encore Pierre-Yves Guillermou et menuisier et gilets jaunes.
Et il pourrait y avoir des consultations au niveau communal, régional, départemental. Enfin, c'est juste la démocratie, quoi. Refaire démocratie. Enfin, c'est pas refaire, c'est faire. Parce qu'elle n'est pas faite.
Alors la démocratie reviendra, justement, le maire promet désormais des réunions chaque année.
Et là où ça se complique, Rémi, qu'est-ce qu'on tire de ces débats?
Les habitants ont réclamé plus de justice fiscale, plus de moyens pour l'éducation. Mais pour Georges Barbaret, conseiller municipal, tout ça n'est pas très clair.
Ce qui surprend dans ces débats, c'est qu'on demande une chose et son contraire. On veut plus d'aides diverses et variées, mais on veut moins d'impôts.
Saint-Briac a déjà envoyé pas moins de 50 pages de compte-rendu. Marie-Claire Loiseleux, retraitée, n'y comprend pas grand-chose.
J'ai relu les synthèses des réunions. Rien qu'au niveau de Saint-Briac, c'est complexe. La synthèse va être compliquée, elle ne va pas se faire en 3 jours.
Alors elle souhaite bon courage au gouvernement pour répondre à toutes ses attentes et elle conclut, logique, il y aura forcément des mécontents.
Et si c'est complexe à Saint-Briac, ce sera complexe effectivement plus largement en France demain. Nouvelle mobilisation des Gilets jaunes comme chaque samedi depuis le 17 novembre.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
En 2050, vous serez mort, pas nous. Sous-entendu, agissez pour que le monde reste vivable et respirable. C'est l'un des messages que les jeunes militants écologistes dans la rue aujourd'hui vont passer à leurs vieux dirigeants. Journée présentée comme mondiale. Vous savez, c'est un nouveau vendredi dans le cadre de ce mouvement grève de l'école pour le climat. La militante suédoise à son origine assure que plus de 1000 rassemblements sont prévus aujourd'hui. Décalage horaire oblige, les Australiens ont manifesté en premier. Voici Sean, élève de l'équivalent de la terminale à Melbourne. Il est au micro de Rosalie Lafarge.
Je porte mon ami Sam sur les épaules pour qu'il montre notre panneau à tout le monde. On y a écrit à l'attention de notre Premier ministre, Scott Morrison. Nous avons peur d'être privés de notre avenir. Plus de 70% des coraux de notre grande barrière de corail ont déjà blanchi. Les compagnies pétrolières se précipitent pour exploiter la grande baie de la côte sud de l'Australie. Ces gens-là se fichent de notre avenir. Il faut arrêter ça tout de suite, pour que nous les jeunes puissions sauver le climat pour les générations futures.
La carte des manifestations, carte du monde et en France, vous la trouverez sur franceinter.fr. Alors à propos de la France, à Paris, la manifestation se tient place du Panthéon. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Vous êtes place du Panthéon avec François Rivalan, quelle ambiance?
Eh bien... on est plus chaud que le climat, ce slogan est répété en boucle ici, place du Panthéon, qui continue de se remplir. Des visages jeunes, voire très jeunes, lycéens et collégiens.
Bah nous, on a décidé de faire la grève et donc de sécher les cours pour participer à cette manifestation, pour nous, parce que pour nous, c'est important.
Moi, c'est mes parents qui m'ont encouragé à le faire parce que ils ont toujours été dans l'écologie et ce serait bien que tout le monde soit comme ça, quoi.
Ils tiennent des pancartes faites avec des bouts de carton et de l'humour aussi. Les calottes sont cuites ou encore « nique pas ta mère », M-E-R. Et ils ont un message pour les adultes.
C'est le temps de réagir. C'est pas parce qu'on est des enfants qu'on peut pas manifester et montrer notre mécontentement. Et c'est parce que on peut rien faire, mais on peut juste montrer notre mécontentement. Et c'est à eux maintenant de réagir et de faire le plus de choses possible pour que ça bouge vraiment.
Les manifestants sont comme montés sur des ressorts, l'ambiance est ludique, festive, mais au micro, certains ne cachent pas leur angoisse face à l'avenir.
Ce qui m'inquiète, c'est de voir le réchauffement climatique, c'est de voir que les États pensent beaucoup plus à l'argent plutôt qu'à la planète. Moi, je pense qu'en 2050, il va commencer à avoir des problèmes, la montée des eaux, des migrations beaucoup plus importantes, donc là, ça va être une catastrophe, et il y a plein d'autres problèmes qui vont venir. Là, le plastique, ils vont détruire les coraux, par exemple, en Australie. Il faut s'en avertir tout de suite, parce que là, ça devient vraiment très inquiétant. Et c'est pour ça qu'on est là, oui.
Le cortège doit partir direction les Invalides, et les manifestants continuent de se rassembler, ici, place du Panthéon.
Sandy Dauphin en direct pour France Inter à propos de ces manifestations climat. Et la foule est-elle à nouveau dans la rue en Algérie? Là aussi la question est importante. Nouveau vendredi de manifestation, rappelons les annonces du pouvoir en début de semaine. Pas de cinquième mandat Bouteflika, une nouvelle constitution bientôt, mais la présidentielle est reportée sans qu'une nouvelle date soit fixée. Une partie des manifestants redoute une ruse du pouvoir. Quel climat ce matin dans les rues d'Alger? Reportage France Inter, Saïd Seguir.
Depuis le début de la matinée, les hélicoptères survolent Alger et les forces de police sont stationnées en nombre. Mais l'ambiance est toujours festive pour le moment. À chaque coin de rue, des marchands ambulants vendent des drapeaux algériens par dizaines. Rania, écharpe autour du cou, sourire aux lèvres, ne parle que d'espoir et de libération.
Je suis fière d'être une Algérienne parce qu'on a on a enlevé la peur. Il y a des médecins sans travail, des ingénieurs. Vraiment, c'est la catastrophe. C'était la catastrophe. Mais maintenant, c'est bon. On va casser ce système. On va casser le chaval.
Un peu plus loin, Mohamed, 72 ans, regarde son peuple défiler, les yeux embués par l'émotion.
Nous avons des belles jeunesses. Nous avons des belles pluies. Nous avons la belle Sahara. Nous avons du pétrole, nous avons du gaz, nous avons du diamant, nous avons de tout. Mais ce gouvernement-là, c'est des sauvages, c'est des voleurs. Ils ne nous donnent pas la liberté. Nous, on demande à manger. On travaille. On a des bels appartements. C'est ça, Rabbi. S'ils nous donnent ça, on ne va pas partir dans l'Europe. Ça, merci. On ne pense pas à nous. Non, ça, c'est fini. On a vécu. Il faut donner la liberté à la jeunesse. La jeunesse, c'est ça, la jeunesse. La jeunesse, c'est le pays.
Le début de la manifestation est officiellement prévu tout à l'heure à 14h, mais déjà, le centre-ville de la capitale algérienne, Noir de Monde, est en ébullition. Alger, Saïd Séguir, pour France Inter.
En Europe, la réponse très fraîche de la France après le vote pour un report du Brexit à Londres, une extension longue du Brexit de la date ne serait acceptable que si le Royaume-Uni présente une alternative claire, dit-on, à Paris. Un ministre dans la tourmente, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, épinglé à la une de deux magazines People après une soirée privée très tard, un samedi. Alors on laissera de côté ce qui relève de sa vie privée, mais dans cette histoire, Emmanuel Leclerc, des questions d'ordre public sont également posées.
Il n'y avait tout d'abord pas de sécurité rapprochée autour du ministre, mais on sait qu'en France, contrairement aux États-Unis, c'est le président de la République ou le ministre qui décide d'eux-mêmes. On l'a vu avec François Hollande qui prend un scooter en pleine nuit. Christophe Castaner, après inspection des lieux par sa sécurité rapprochée, a décidé de rester seul sur la piste de danse en laissant ses agents gardes du corps à l'extérieur près de l'entrée. Dans l'entourage du Premier ministre à Matignon, on estimait ce matin que la discothèque parisienne était donc suffisamment sécurisée. Ensuite, il y a la question de ce genre de soirées qui peuvent être bien arrosées pour un ministre susceptible de gérer à tout moment une crise terroriste ou une catastrophe aérienne par exemple. Là encore, du côté de Matignon, on rétorque que l'on ne sait pas. D'abord, si M. Castaner avait trop bu, il n'y avait pas d'éthylotest à la sortie de la discothèque. Il ne faut pas être un mormon pour occuper cette fonction. Plusieurs sources policières contactées depuis hier soir ont quand même du mal à comprendre comment un ministre avec un tel poste régalien puisse s'exposer et donc prendre des risques à tous les niveaux dans un lieu public. Même si pour Édouard Philippe, cela reste une tranche de vie privée d'un très bon ministre de l'Intérieur qui ne sera donc pas, Bruno, convoqué à Matignon selon nos informations.
Merci Emmanuel Leclerc. Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions de football. Manchester United, Barcelone, c'est la grosse affiche. Juventus de Turin, Ajax, Amsterdam, Tottenham, Manchester City, match 100% anglais. Liverpool contre Porto. Et en Ligue Europa, un choc Arsenal-Naples. À propos de sport, si vous ne connaissez pas Simon Biles, tapez son nom sur un moteur de recherche et vous verrez de quels exploits est capable cette Américaine de 22 ans. 4 médailles d'or olympiques de gym, ses titres mondiaux en gymnastique, on ne les compte même plus. C'est 7 athlètes hors du commun, désignée entre autres championne des champions 2018 par le journal L'Équipe qui était de passage ces derniers jours à Paris. Elle s'est entraînée à l'INSEP où résident les sportifs français qui préparent les Jeux Olympiques. Et deux espoirs de la gym française ont travaillé à ses côtés sous vos yeux, Cécilia Arbonin.
Dotée d'une détente hors norme, Simone Biles, 1m45 pour 49 kg, est une fusée qui se transforme en ballon, à la fois explosive et aérienne.
Spectaculaire, technique, elle monte vraiment très très haut.
La martiniquaise Mélanie de Jesus dos Santos, 19 ans, médaille d'or au championnat d'Europe de Glasgow l'an dernier.
Quand elle fait son mouvement qui s'appelle le Biles,
qui porte carrément son nom.
Oui. Au sol, c'est un double tendu avec un demi-tour. Et au saut, c'est un flip avec un demi-tour avant d'arriver sur la table et une double vrille derrière. Bah, c'est une icône de la gym.
Je pense que c'est vraiment une athlète exceptionnelle de par ses qualités physiques.
Éric Agar, entraîneur du Pôle France de Saint-Étienne.
Le passage de Simone à Paris, c'est un échange-retour puisque nous étions en stage chez elle au mois d'août dernier, pendant 10 jours à Houston. Elle est aussi forte que les meilleurs gymnastes masculins au monde, que l'on a vu très très peu souvent dans l'histoire de la gymnastique mondiale.
Avec un air canaille mais déterminé, Mélanie de Jesus dos Santos refuse de faire un complexe d'infériorité.
Je pense que si je suis en compète avec elle, bah, je vais essayer d'aller la titiller un petit peu.
Il y a 4 mois, à Doha, au Qatar, lors du dernier sacre mondial de Simone Biles, Mélanie s'était classée 6e au concours général.
Et l'américaine est en compétition ce week-end à Stuttgart, en Allemagne. Le foot en France, Ligue 1, 29e journée à partir de ce soir. Nice-Toulouse à 19h, Lille-Monaco à 20h45. En rugby, le programme du week-end, fin du tournoi des 6 nations, Italie-France à 13h30. Et grand chelem possible pour le Pays de Galles qui reçoit l'Irlande. Enfin, en Formule 1, vous savez que ce week-end marque la reprise Grand Prix d'Australie. J'ai testé pour vous, le vendredi, dans ce journal de 13h, à quand des voitures autonomes dans les rues et sur les routes? Eh bien, une étape de plus a été franchie cet hiver dans la station de ski de Val Thorens, à l'essai une navette autonome électrique pour transporter les skieurs au pied des pistes. 12 capteurs, 4 caméras, une personne à bord tout de même au cas où. Un parcours avec 9 arrêts à respecter dans la station. Alors cette navette, vous l'avez testée, Philippe Lefebvre, à quoi ressemble-t-elle?
Eh bien, je suis dans les rues de Val Thorens et je vois devant moi un véhicule rouge et blanc qui ressemble un peu à un minibus qui serait issu d'un dessin animé de Walt Disney. Aucun bruit, c'est totalement silencieux. C'est la nouvelle navette autonome, la première au monde, qui va circuler à une altitude de 2300 mètres dans les rues de la station. Alors je vais rentrer à bord du véhicule. Benjamin, bonjour.
Bonjour, bienvenue à bord.
Alors ça, c'est votre jouet, hein?
C'est notre jouet, ouais. C'est effectivement une première mondiale depuis maintenant un mois à Val Thorens, où effectivement on expérimente la première navette autonome 4 roues motrices qui gravit les pentes et descend aussi ses pentes, parce que c'est souvent plus complexe de descendre que de monter.
Alors il y a une chose qu'on trouve beaucoup sur les routes de la station, c'est de la glace et de la neige. Ça passe quand même?
Bah oui, ça passe.
Comment ça marche?
Bah effectivement, la navette autonome est pas équipée de système de conduite classique, hein. Elle se conduit via des capteurs et via une connexion GNSS. C'est une connexion satellite.
Alors montre-moi comment ça marche. Donc là, la porte se ferme.
La porte va se fermer. Je vais l'autoriser à partir en mode autonome. Il va se signaler par un petit clignon. Vous entendez le démarrage du moteur. Et là, alors c'est assez silencieux, hein, mais elle est en train de se déplacer.
Là, on est à quelle vitesse?
On va pouvoir monter à 9 km/h.
Alors, en cas de problème, s'il y a un piéton qui passe devant, qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, regardez, par exemple, on a une personne qui va rentrer dans notre zone de sécurité. Il va se signaler. Hop, voilà, ça y est, vous voyez, il l'a entendu, il l'a détecté. Elle continue à s'approcher. Voilà, et il est passé, voilà, il est passé. Elle nous a repéré, elle s'écarte. Et on peut reprendre, effectivement, à ce moment-là, notre trajet. Dans certains cas, la navette autonome, elle adapte sa vitesse. C'est-à-dire qu'elle est en capacité, effectivement, si l'événement va dans le même sens qu'elle, à une vitesse moindre, de se positionner derrière et de suivre la personne ou de suivre un véhicule lorsqu'elle circulera sur route ouverte.
Alors vous l'avez compris, cette navette est encore en période de test. Il faudra attendre une autorisation du ministère des Transports pour qu'elle puisse circuler librement dans les rues de cette station savoyarde. Une autorisation qui pourrait intervenir d'ici la fin de cette année.
Merci Philippe Lefebvre. Le casting du journal de 13h cette semaine à la technique Arnaud Caillé, Ludovic Asselot, à la rédaction en chef Anaïs Feuguet, Lionel Thompson. Merci également à Guillaume Béraud, Sylvain Lesage, Sébastien Denat et Swad Bellani.
La météo, avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur prefonds-retraite.fr.
Sébastien Léas.
Cet après-midi reste bien ensoleillé sur les régions de la Méditerranée et les Pyrénées. Il faut tout de même composer avec le Mistral et la Tramontane. En revanche, sur le reste du pays, les nuages dominent largement. Quelques trouées se dessinent entre la Bretagne et les plaines du sud-ouest. Plus à l'est, quelques pluies résiduelles peuvent se faire remarquer cet après-midi, notamment sur les contreforts du Massif central. Mais sur les Ardennes, la Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté, ainsi que Rhône-Alpes, les pluies restent régulières. On attend aussi de la neige, des 1700 mètres d'altitude sur les Alpes du Nord. Et comme le vent souffle parfois violemment, le risque d'avalanche est fort sur la Savoie et la Haute-Savoie. Le vent est également bien sensible autour de la Méditerranée et sur la moitié nord. Les températures de l'après-midi sont en hausse, variant entre 12 et 16 degrés en général. Les maximales sont plus douces sous le soleil du sud, avec jusqu'à 23 degrés.